en collaboration avec les CFF et le TCS.
Le temps sera très nuageux aujourd'hui avec des précipitations à partir de l'ouest qui vont s'étendre rapidement à toutes les régions. Il neigera à 1000 mètres ce soir. Les températures 2 degrés minimum, maximum 10. C'est à vous, Eric Guevara-Frey. Bonjour, Eric.
Et bonjour, Valérie. Je prends le micro.
Oui, allez-y. Non, je parlais des générations. Vous allez faire le tri.
Oui, exactement. Vous êtes de quelle génération, vous?
Qu'est-ce qu'on est, Valérie?
On est X.
On est X. On est de la même génération, les deux Valérie.
Très bien, très bien.
Comme vous, Eric, d'ailleurs.
De chance. Je ne sais pas.
Mais
je
ne sais pas.
Allez, à bientôt. Bonne journée. 8h sur RTS Première, jeudi 19 décembre. Et voici le journal d'Audrey Mondy. Bonjour Aude.
Bonjour.
À la une ce matin, un procès hors norme qui s'achève en France.
La Cour de justice du Vaucluse rend aujourd'hui son verdict dans l'affaire des viols en série de Mazan. 51 accusés risquent la prison. En Suisse, le timbrage pour aller aux toilettes rebondit au prud'homme. Le syndicat Unia attaque l'entreprise horlogère Singer et l'accuse de discriminer ses collaboratrices. Le foie gras sera-t-il au menu chez vous à Noël? L'Alliance Animale Suisse tente de convaincre les parlementaires de se tourner vers les produits sans gavage. Dégustation en fin de journal.
Et vous, Audrey Mondy, vous êtes de quelle génération?
Eh bien, moi, c'est génération Y.
Vous êtes Y. Exactement.
Voilà.
Mais à quoi ça sert, de toute façon, ces appellations qu'on trouve quand même partout autour du monde, d'où elles sortent? Certaines voix proposent qu'on envisage les générations un peu différemment. On voit ça dans tout un monde après le journal.
En France, une affaire très médiatisée sur le point de se conclure. Le verdict dans le procès des viols en série de Mazan sera rendu ce matin. Bonjour, Benjamin Louis.
Bonjour.
On vous retrouve sur place devant le tribunal d'Avignon. C'est un procès qu'on peut qualifier d'historique qui touche à sa fin.
Oui, un procès ouvert le 2 septembre dernier au retentissement mondial. Dans quelques instants, à 9h30, le président de la cour criminelle du Vaucluse, Roger Arata, ouvrira l'audience et il doit s'atteler à prononcer le délibéré, les peines retenues contre chacun des 51 co-accusés dans cette affaire de soumission chimique, avec au premier rang d'entre eux Dominique Pellicot, 72 ans, l'ex-mari de Gisèle Pellicot, le grand-père gâteau serviable le jour, qui pendant des années, la nuit, droguait sa femme, la violait et la faisait violer inconsciente par des dizaines d'autres hommes âgés de 27 à 74 ans, au profil divers, tous recrutés sur Internet par le mari. Des sévices minutieusement filmés et photographiés qui avaient lieu au domicile conjugal du village de Mazan, un nom aujourd'hui tristement célèbre. Ce procès, Gisèle Pellicot, la victime, l'a voulu public afin, dit-elle, de faire changer le regard sur le viol. Elle est attendue ici, d'une minute à l'autre, par une centaine de badauds venus la soutenir devant le tribunal d'Avignon. Une femme qui se dit elle-même détruite, dont la détermination a fasciné bien au-delà de l'Hexagone, et des dizaines, voire parfois des centaines de personnes qui chaque jour l'ont accueilli par des applaudissements, des bouquets de fleurs. Ce matin, près de 200 journalistes venus du monde entier se pressent déjà pour rentrer dans le tribunal et une compagnie de CRS est mobilisée pour assurer la sécurité. On s'attend ici à des manifestations de soutien.
Et quelle peine encourent les auteurs de ces viols, Benjamin ?
Le 25 novembre dernier, le ministère public a requis contre Dominique Pellicot la peine maximale, 20 ans de réclusion criminelle. Contre 49 de ses co-accusés, également poursuivis pour viol aggravé, l'accusation a requis 10 à 18 ans de réclusion et 4 ans de prison sont demandés contre le dernier, poursuivi pour attouchement sur Gisèle Pellicot.
Merci Benjamin Louis, en direct d'Avignon. Emmanuel Macron, attendu aujourd'hui à Mayotte, le président français doit constater l'étendue de la catastrophe 5 jours après le passage meurtrier du cyclone Chido. Une telle visite présidentielle mobilise en général d'importants effectifs parmi les forces de l'ordre. Mais à l'heure actuelle, où beaucoup de moyens sont nécessaires pour venir en aide à la population, l'Élysée fait savoir que le président se déplace avec une délégation très restreinte. En Syrie, Moscou évacue peu à peu une partie de son armement et de ses soldats. Avec la chute de son allié Bachar al-Assad, la Russie perd de son influence au Moyen-Orient, mais cherche à conserver les deux principales bases militaires dont elle dispose dans le pays. Notre correspondant à Moscou, Jean-Didier Revoin.
Officiellement, le ministère russe de la Défense ne commande pas le fait que les équipements militaires dont la Russie disposait dans toute la Syrie convergent depuis quelques jours vers la base aérienne de Khmeimim. Certains médias russes parlent d'un repli stratégique et sécuritaire dans la mesure où la diplomatie affirme qu'elle a obtenu du nouveau pouvoir syrien des garanties de sécurité pour cette base aérienne et sa base navale de Tartous. Elle dit en outre être en négociation avec lui en vue de la poursuite de leur exploitation. Ces mêmes médias évoquent également la possibilité d'une réduction du dispositif militaire russes en Syrie, qui permettrait de renforcer les équipements déployés sur le front ukrainien. Mais là encore, les canaux officiels restent silencieux car l'enjeu est de taille. La perte du port de Tartous priverait la Russie de son seul port en eau chaude qui, de surcroît, lui offre un débouché direct en Méditerranée. Quant à la base de Khmeimim, elle constitue une halte nécessaire pour ravitailler les avions qui acheminent hommes et matériel en Afrique, incapables d'atteindre le continent d'une seule traite. Jean-Didier Revoin pour RTS, Moscou.
La pause pour aller aux toilettes pendant les heures de travail, eh bien, elle continue de faire parler d'elle dans le canton de Neuchâtel.
Selon une information de la RTS, Unia attaque l'entreprise horlogère Singer devant le tribunal des prud'hommes, car pour le syndicat, la manufacture discrimine les femmes en obligeant tous ses employés à timbrer quand ils se rendent aux toilettes, Fabiano Citroni.
Comment est cette action justice, c'est un rebondissement dans cette affaire du timbrage des postes toilettes dont on parle beaucoup depuis 2 mois. Pour Unia, c'est très simple. Les femmes passent plus de temps que les hommes aux toilettes. Elles sont pénalisées par le timbrage. Unia prend l'exemple des menstruations, du fait d'uriner assise et pas debout, du temps d'habillage et de déshabillage plus important pour les femmes. Et c'est pour cette raison que le syndicat saisit les prud'hommes. Maintenant, il y a 2 possibilités. Soit Singer arrête de faire timbrer ses employés et la conciliation aboutit, soit l'entreprise refuse et ce sera alors au juge des prud'hommes de dire si oui ou non il y a violation de la loi sur l'égalité entre femmes et hommes.
Fabiano, dans cette affaire, Singer a déjà gagné 1 fois en justice.
Oui, c'était contre l'État de Neuchâtel devant le tribunal cantonal. Les juges avaient dit il y a une lacune dans la loi et Singer peut donc obliger ses employés à timbrer. Mais, et c'est un mec qui est vraiment important, les juges avaient demandé à Singer de prendre des mesures compensatoires pour éviter de discriminer les femmes. Alors, mesures compensatoires, c'est dur de savoir ce que ça veut dire. Mais une chose est sûre, l'affaire franchit aujourd'hui un nouveau cap avec cette demande très claire d'Unia d'arrêter le timbrage des pauses pipi. Le fin mot de l'histoire, on le connaîtra dans quelques mois.
Merci Fabiano Citroni. La suppression de la valeur locative a franchi hier un pas supplémentaire au Parlement. Il s'agit de cet impôt que payent les propriétaires sur une surface qu'ils pourraient louer, même s'ils ne la louent pas. Après 7 ans de débat, le législatif s'est enfin mis d'accord sur une suppression qui doit encore être acceptée en vote final demain matin par les deux chambres.
Ouais, si vous manquez de débats difficiles pour votre table de Noël, on peut vous donner une idée. Par exemple, faut-il interdire le foie gras ?
Les parlementaires, eux, ont pu goûter à du foie gras sans gavage hier sous la coupole à l'invitation de l'Alliance Animale Suisse qui a lancé l'initiative pour interdire l'importation de foie gras. Le peuple devra se prononcer, mais en attendant, pour convaincre les parlementaires, quoi de mieux que d'essayer de ravir leur estomac ? Gabriella Cabré a suivi cette dégustation.
Oui, entre 2 votes, les parlementaires ont droit à un petit coup.
Ah mais non, c'est vrai, il y a les deux.
Devinez quel est le foie gras classique, celui issu du gavage, et celui sans souffrance animale, selon l'initiateur de cette dégustation, Luc Fournier, de l'Alliance Animale Suisse.
L'objectif, c'est déjà de faire goûter un produit pour démontrer qu'il a des qualités gustatives qui peuvent être comparatives, et puis ensuite d'entamer une discussion sur les intérêts et les inconvénients de ce type de produit.
Et si pour certains, la distinction n'est pas évidente,
c'est franchement difficile. Texture un peu différente, sans qu'il est un peu plus salé, celui-là.
Non, mais ça montre que le gavage n'est pas nécessaire. Donc on n'est pas obligé de faire souffrir les animaux pour bien manger.
Le commentaire de 2 parlementaires verts à droite, respectivement pour un UDC et un MCG.
Le deuxième, on a vite le goût de gras, mais pas le goût de foie.
C'est pas que c'est pas mauvais, cette question n'est pas là, mais c'est pas du foie gras, c'est tout.
Et il faut le dire, autour de la table, uniquement des élus romands, un alémanique, le conseiller national UDC Thomas Séchy, vient faire une incursion.
Quand même, j'aime beaucoup le foie gras et je pense qu'il faut laisser le choix au consommateur s'il veut l'acheter ou non.
Est-ce qu'il y en aura la semaine prochaine sur votre table à Noël ?
Ça, je pense pas.
Non, mais si t'es contre l'interdiction, vous n'êtes pas du métier, ça je m'en rends compte.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette dégustation aura relancé encore une fois le débat de cette initiative qui divise encore les romans.
En National League de hockey sur glace maintenant, Lausanne a renoué hier avec la victoire. Les Vaudois ont battu Ambry 5-0 et restent à la 3e place du classement derrière Davos et Zurich. Et puis journée exceptionnelle aujourd'hui pour l'opération Cœur à Cœur. Les 4 régions linguistiques de notre pays s'unissent autour de la lutte contre la maltraitance des enfants. Les standards téléphoniques sont ouverts depuis 1 heure et Jean-Marc Richard vient de nous rejoindre dans ce studio. Bonjour Jean-Marc.
Oui, avec une dimension nationale et internationale. Puisque depuis le début de l'opération, on a beaucoup parlé de la Suisse, la maltraitance en Suisse. Mais là, on va aussi s'arrêter sur ce chiffre impressionnant. Toutes les 4 minutes, un enfant meurt dans le monde suite à un acte de violence. Et ça, c'est une réalité. Et au-delà de la réalité, qu'est-ce qu'on peut faire ? comment peut-on agir avec la chaîne du bonheur, avec les ONG qui sont sur le terrain. C'est ce qu'on va faire tout au long de cette journée avec nos collègues, effectivement, des différentes régions linguistiques et les sensibilités différentes dans les différentes régions linguistiques, ainsi que les radios régionales, en particulier de l'arc jurassien, qui s'unissent pour l'occasion. Eux, c'est un sapin solidaire. Nous, c'est cœur à cœur.
Merci beaucoup Jean-Marc. On va vous retrouver tout au long de cette journée pour cette opération sur RTS Première.
Et merci à vous Audrey Mondy pour votre journal et à très bientôt. Il est 8h10 sur RTS Première.
Tout un monde, Éric Guevara-Frey.
Cette séquence illustre notre époque.
Il y a un pouvoir insoupçonné de l'écoute.
Pour moi c'était tout un monde.
Bonjour, génération boomer, X, Z, à quoi servent ces dénominations qu'on voit partout? D'où sortent-elles? Francesca Girofo a grimpé aux arbres généalogiques. L'avertissement des universités américaines à leurs étudiants étrangers, revenez vite aux États-Unis après les vacances de Noël. Et puis nous visiterons, sous bonne escorte, l'une des villes modèles dans la transformation du Haut-Karabakh par l'Azerbaïdjan. 3, 2, 1.
Après la génération X puis Y.
Chaque génération correspond à certains gros événements.
Les bêtas, ça serait ceux qui sont nés dans le Covid.
The new generation, Gen Beta.
Donc la prochaine qui se prépare, c'est la génération bêta.
Cette nouvelle appellation, nous la devons encore une fois aux sociologues.
Quand on arrive à Z, il faut bien trouver autre chose. Hein.
Ah oui, il y a eu les générations des baby-boomers nés dans la prospérité d'après-guerre, puis les générations X, Y, Z, et on a trouvé autre chose. Hein. Les ados d'aujourd'hui font partie de la génération alpha, mais à peine on a eu le temps de se familiariser avec, on est déjà passé, on passe déjà à la prochaine, la bêta, qui devrait naître entre 2025 et 2040. Vous suivez ? Pas évident, surtout d'où vient cette nomenclature qui structure tellement de discours? Est-ce qu'elle apporte quelque chose? Est-ce qu'elle a du sens? Bonjour Francesca Girofo.
Bonjour Eric.
Vous avez tenté d'y voir un peu plus clair.
Oui, j'ai chaussé mes lunettes de boomer, moi qui suis née dans les Trente Glorieuses, qui a nagé dans la prospérité et le plein emploi, qui était biberonnée à Bob Dylan et aux Beatles. Mais je dois vous dire que l'idée, le concept même de génération remonte à encore plus loin, si l'on en croit les sociologues, notamment Stéphane Hugon, cofondateur de la société Eranos.
Il y a toute une sociologie de la fin du 19e siècle qui l'évoque sans véritablement parler de génération, mais c'est un concept qui était particulièrement efficace pour bien comprendre ce qui se passait dans les sociétés européennes à partir des années 50. Et pour une raison simple, c'est qu'en réalité, on va avoir une culture et un ensemble de comportements des personnes qui seront marquées par une certaine homogénéité, c'est-à-dire que par le fait de déterminer l'âge de naissance d'une personne, on peut anticiper par causalité à la fois ses valeurs, ses comportements, la manière dont il vit, voire même son opinion, ses décisions politiques, etc. Et ça marche très bien entre les années 50 jusqu'au tournant des années 2000, on va dire.
Après, il a bien fallu les nommer, ces générations, parfois même de façon rétroactive. La génération X, inspirée, semble-t-il, par le X mathématique de l'inconnu, est souvent décrite comme pragmatique, sceptique, marquée par les premières vagues du chômage et les chocs pétroliers des années 70. S'en est suivie, logiquement, la génération Y, appelée aussi milléniale, et dont vous faites partie, Eric.
Je crois que je suis X, mais enfin,
oui, je sais que vous êtes dans le déni. Les Y sont nés dans les années 80, devenus adultes au tournant du siècle avec l'essor d'Internet et la montée du terrorisme. Après, on suivit les Z à partir du milieu des années 90 qui ont vu arriver les smartphones et l'émergence des réseaux sociaux.
Et puis, on parle aussi de la génération alpha. Donc ça, c'est ceux qui sont nés à partir de 2010. Et il sort d'où ce terme alpha?
Eh bien, figurez-vous qu'il a été inventé par un chercheur en sciences sociales australien, Mark McCrindle, qui a écrit tout un livre sur le sujet.
Si vous regardez les jeunes de ces dernières décennies, on les a d'abord appelés les dot-com kids ou la génération click and go. Des noms qui ne sont pas toujours flatteurs. Il est vrai que cela a pu être très important en 2008 ou 2009, lorsque les appareils numériques sont apparus. Mais cela ne définit pas les jeunes aujourd'hui. Il s'agissait d'une technologie, d'un aspect de leur vie. Il est donc préférable d'adopter une approche plus scientifique des générations, c'est-à-dire de fixer une durée, une période de naissance, c'est 15 ans maintenant, et d'avoir une appellation plus neutre, sans biais. L'alphabet grec, par exemple, avec la génération alpha, bêta et ainsi de suite, permet à ces générations de créer leur propre signification au fil du temps.
Voilà donc des générations appelées comme les variants du Covid-19, pas de chance. Oh, vous me direz, certains sont nés en plein dedans. Et qu'est-ce qui caractérise les alphas? Écoutez Elodie Gentina, professeure à l'ESSEG School of Management de Lille.
Avec la génération alpha, on est sur le ChatGPT, on est sur l'intelligence artificielle, on est sur la robotisation. J'avais quelques chiffres au niveau de la Suisse qui montrent que 60% des enfants à l'âge de 6 ans ont déjà un téléphone portable. 25% des enfants à 6-7 ans en Suisse ont une tablette. Ça fait partie d'eux-mêmes. Et on se dit même que les alphas ont des compétences qui sont peut-être différentes par rapport aux autres générations parce qu'ils développent une sorte d'intelligence visio-spatiale et une capacité à traiter de l'information et plusieurs informations simultanément.
Quant aux bêta, bon, pas de commentaire. Hein. Ceux qui naîtront à partir du 1er janvier 2025, bah forcément, on ne sait pas grand-chose, excepté qu'ils seront encore plus immergés dans les technologies numériques, nous dit Monsieur MacKrindle. C'est pas un scoop et il faudra sans doute refaire une émission dans 15 ans.
Un rendez-vous est pris. Mais Francesca, c'est pas un peu absurde de parler de générations qui n'existent pas encore? Là, on s'y perd un peu quand même.
C'est vrai, mais cette confusion s'explique selon Sandro Katachin, professeur de sociologie à l'Université de Genève.
Ces termes générationnels sont nés surtout par le marketing. En fait, c'est des analyses de la manière dont on achète des produits qui sont à la mode, qui devient ensuite une espèce de description superficielle d'un groupe de consommateurs qui commencent à avoir de l'argent. Donc, ceux qui entrent dans le marché du travail et qui commencent à se développer comme personnalité. Alors, transformer ces logiques qui viennent d'études de comportement, de consommation, en attitude identitaire d'une génération, pour nous, c'est, comme sociologues, on n'utilise pas ces catégories parce qu'ils ne nous disent pas grand-chose de ce qui sera effectivement la structuration en valeur, mais nous peut dire quelque chose, effectivement, sur ce qui sont les logiques de consommation, tout en sachant que c'est très éphémère.
Alors, j'ai fait le test avec des étudiants en sociologie, toujours à l'Université de Genève, 21, 22, 23 ans, et effectivement, ils sont un peu dans le flou.
Je crois que je suis de la génération Z, Y ou Z, mais je crois que je suis dans la génération Z. Enfin, ça me procure assez peu d'émotions.
Moi, je pense génération Z, étant donné que je suis né en 2003, et puis aussi par mes références culturelles, aussi ma présence sur Internet, je pense que on pourrait dire que je suis de la jeune Z.
Génération Alpha, ça vous parle ?
Génération Alpha ? Pour moi, la génération Alpha, c'est les personnes qui jouent à Fortnite.
Les changements générationnels sont beaucoup, beaucoup plus courts. Hein. Déjà 4 ans suffit pour pas comprendre la musique qu'écoute l'autre.
Hein. La musique, comme le rappelle Sandro Katachin, ou l'utilisation des outils numériques.
On voit des enfants de 6 ans, par exemple, ça m'arrive très souvent dans le tram de les voir avec un iPhone 15. Et on se dit, mais mon Dieu, ça paraît insensé un peu. Alors que nous, on n'avait pas ce genre de technologie à notre âge, par exemple.
Et donc, ces questions de génération, essayons de parler plutôt des parcours de vie. Et dans ces parcours de vie, qu'est-ce qui t'a marqué, à quel moment, et voir ces moments clés qui sont la jeunesse et l'âge de jeune adulte. Et de l'autre côté, de regarder, est-ce qu'il y a des événements importants qui ont fait qu'un impact sur tes valeurs stables, quelque part, a lieu.
Nous sommes en guerre.
4 ans après le premier confinement, 41% des 18-24 ans souffrent de dépression modérée à sévère contre 26% avant le Covid.
Donc si je comprends bien, au-delà d'événements marqueurs comme le Covid, la guerre en Ukraine, ça n'a plus vraiment de sens d'identifier des cohortes de population en fonction de leur année de naissance.
Le sociologue Stéphane Hugon pense qu'à partir des années 2000, ce concept s'effrite pour une raison très simple.
En réalité, quand le numérique est arrivé, il était assez exclusif, c'était pas encore une culture populaire. Ce qui a complètement disparu au tournant des années 2000, puisque la culture Internet est devenue la culture tout court.
Et en devenant culture tout court, Internet accélère l'éclatement de la société.
Et du coup, on a des publics qui vont se constituer, y compris pour une même génération, sur des faits culturels ou sur des imaginaires ou sur des cultures qui vont être extrêmement différentes. Donc, tant que la société était trop homogène, la notion de génération était pertinente. Et à partir du moment où la société se fragmente, certains commentateurs ont parlé d'archipélisation, on s'aperçoit que la société, n'ayant plus de culture transversale, de culture commune, de sens commun, mais ayant plutôt des affinités, ça devient de plus en plus difficile, sur le critère de l'âge, de pouvoir anticiper les opinions, les comportements et les valeurs des gens. Plus la société est hétérogène, plus la notion de génération devient difficile à appliquer.
C'est ce que dit aussi Sandro Katachin. Depuis les années 60, le processus d'individualisation est lent mais inexorable et les réseaux sociaux ont exacerbé la subjectivation des individus. C'est ce que disent avec d'autres mots les étudiants. Selon où vous êtes né, la musique que vous avez écoutée, le milieu où vous avez grandi, votre expérience n'aura rien à voir avec celle d'un autre contemporain.
Moi, ça me dérange le terme génération parce que vraiment, ça met un accent sur l'âge des gens. Et moi, dans ma tête, il y a plus de disparité entre deux personnes qui ont le même âge mais qui font partie d'une classe sociale différente qu'entre deux personnes qui ont, par exemple, 10 ans de différence mais qui ont grandi dans le même quartier.
Donc, plutôt qu'opposer les générations parce que ce concept est clivant et parce que trouver un nouveau nom tous les 4 ans n'a effectivement aucun sens, mieux vaut les réunir, comme le suggère Élodie Gentina dans son nouveau livre consacré aux défis du management intergénérationnel.
Notre cerveau aime bien être dans la simplification de la réalité et donc dire, voilà, on parle de Z, on parle de Y, on parle de X, on parle de baby boomer. On a été habitué à ça. Mais pourtant, si on reste sur des clichés, des stéréotypes, voire même des préjugés, on a une vision très simplifiée du monde dans lequel on vit. Et les vraies rencontres, elles se font pas via le smartphone, même si on parle aussi de socialisation virtuelle ou de socialisation réelle. On dit qu'il y a 3 besoins qui sont innés, qui sont le besoin d'autonomie, le besoin de compétences et le besoin d'appartenance sociale. On retrouve ça parmi toutes les générations.
Donc, retour aux fondamentaux.
Oui, en quelque sorte, c'est un retour aux fondamentaux, aux vraies rencontres physiques à l'école comme lieu de socialisation, à la mutualisation des compétences au travail. Toutes générations confondues, ça c'est pour la touche d'optimisme. Mais bon, il y a des générations qui vont sans doute rester un marqueur, assumé ou pas. Talking about my generation.
Ok, Boomer.
Alors ça, c'est pas moi qui l'ai dit, je me serais pas permis. Non, moi, ce que j'ai à vous dire, Francesca, c'est un immense merci pour ces années à Tout un Monde. Tu n'as jamais hésité, Francesca, à t'attaquer à des sujets compliqués, à les passer à ta moulinette, dans ta moulinette, à venir nous les raconter à l'antenne de façon toujours claire, toujours intéressante. Je crois que c'est ce qu'on appelle une excellente journaliste. Et c'était un honneur de pouvoir te compter dans notre équipe. Mais il y a eu toutes ces années avant, à la RTS, à la RSR, en presse écrite aussi. Aujourd'hui, tu tournes la page de ta vie professionnelle, mais je sais qu'il y a beaucoup de vies qui t'attendent après. Merci beaucoup, Francesca.
Oh, merci, Eric.
Et
merci,
à très bientôt.
Merci à l'équipe de Tout un Monde et merci à tous. C'est un honneur aussi de travailler pour vous.
Tout un Monde, Eric Guevara-Frey.
Plusieurs universités américaines ont lancé un avertissement à leurs étudiants étrangers. Rentrez rapidement aux États-Unis après vos vacances de Noël dans vos pays, en tout cas avant le 20 janvier et l'investiture de Donald Trump à la présidence. Ces appels émanent entre autres de Harvard, du MIT ou de l'Université de Californie du Sud. Bonjour Cédric Guigon.
Bonjour Eric.
Pourquoi ces avertissements des universités aux étudiants étrangers?
Eh bien parce qu'ils ont peur d'un retour et même d'une extension du travel ban avant la reprise des cours. Alors rappelez-vous, le travel ban, c'est le fameux décret anti-immigration qu'avait imposé Donald Trump au cours de son premier mandat. À l'époque, 7 pays, à majorité musulmane, étaient d'abord visés par une interdiction d'entrée sur sol américain. Iran, Irak, Libye, Syrie, entre autres. La mesure avait été contestée devant les tribunaux, des exceptions introduites. Mais le président avait aussi élargi progressivement la liste des restrictions. Nigeria, Corée du Nord, Venezuela, en tout une 15aine de pays affectés.
Et pour ce prochain mandat, ça pourrait aller plus loin?
Oui, l'université de Cornell, dans l'état de New York, avertit. Des retards à la frontière sont à prévoir, les démarches administratives risquent de se compliquer pour obtenir des visas, mais surtout les mêmes pays sont susceptibles d'être ciblés par le retour du décret, avec des ajouts, et non des moindres, la Chine et l'Inde.
Several American universities have called back international students before Trump takes office in January.
United States University are actually advising students.
Alors l'inquiétude grandit en Inde, c'est le premier pays de provenance aux États-Unis avec 330 000 étudiants devant la Chine. Alors les craintes sont-elles fondées? Oui, répond David Silvan, professeur émérite de sciences politiques et de relations internationales au Graduate Institute à Genève.
Ce qu'on sait bien de Trump, c'est qu'il adore faire des annonces très générales de façon à effrayer les gens, de démontrer qu'il est puissant. Donc, j'imagine que ça serait quelque chose fait au début et qu'ensuite on aurait trouvé toute une série de façons de court-circuiter.
Et puis quel intérêt pour Donald Trump de restreindre potentiellement l'entrée des États-Unis aux Indiens et aux Chinois?
Dans les deux cas, il serait comme ouvert à un marchandage en quelque sorte, de faire un deal, comme il aime dire, avec les leaders des deux pays.
Un levier pour de futures négociations avec les deux géants asiatiques, mais s'en prendre aux étudiants étrangers des grandes universités, c'est aussi une mesure très symbolique pour le républicain.
Punir, effectivement, les nantis, montrer aux gens qui ont voté pour lui qu'il est à leur côté, qu'il ne veut pas donc respecter certains codes des élites, etc.
Et pourtant, le futur président américain a toujours voulu s'attaquer à l'immigration illégal, non? Mais les étudiants étrangers doivent obtenir un visa, soumettre un dossier, tout ça, normalement, c'est légal, c'est bien encadré.
Exactement, et David Sylvan peut témoigner, il a lui-même aidé de nombreux étudiants à obtenir le visa américain. Pour le politologue, Donald Trump adopte une posture générale contre l'immigration. Pourtant, la majorité de ceux qui arrivent passent par des canaux légaux, à l'image de la majorité des 1,1 million d'étudiants étrangers qui pourraient obtenir le droit de travailler sur sol américain. Alors, quel impact une telle politique de restriction peut-elle avoir in fine sur le pays, et pourquoi ces universités ont-elles publié aussi rapidement cet avertissement?
D'une part, ça aurait une influence très très importante, par exemple en Silicon Valley, mais également dans certains hôpitaux, également certaines sphères de la technologie, etc. Donc d'une part, ça pourrait vraiment nuire à certaines industries clés de l'économie américaine. Mais d'autre part, pour les universités, c'est de l'argent qui se sacrifie, parce que ces gens-là, très, très souvent, ils ne sont pas du tout donnés des bourses, donc ils paient. Et ils paient en espèces, effectivement. Et ça veut dire que si on voit que ces gens-là sont découragés à venir, ça pourrait avoir un effet sur le bottom line de pas mal des universités.
Le bottom line, les finances de ces universités. Or, c'est l'une des promesses électorales du Républicain, s'attaquer, je cite, au wokisme et à l'endoctrinement de gauche et couper les fonds de ces écoles qui le défient.
Merci Cédric Guigon.
Michael Poker, RTS Info, Shanghai,
Berlin,
Washington.
Benjamin Luis, RTS Info, Paris.
Karine Nishimura pour RTS Info à Tokyo,
Londres,
Moscou.
Maureen Mercier, RTS Info, Kiev.
Tout un monde.
Nouvelle étape après la fin d'un conflit vieux de 30 ans. Maintenant que l'Azerbaïdjan a reconquis l'enclave du Haut-Karabakh, longtemps disputée avec l'Arménie, il y mène de grands travaux. Objectif, repeupler au plus vite ce territoire dont les Arméniens, qui y étaient majoritaires, ont été contraints à l'exode. Manon Chapelain a pu visiter l'une des premières villes modèles de ce territoire, un chantier géant aux allures de vitrine du régime azerbaïdjanais. Elle a eu un accès rare à cette région. Reportage.
On vient d'arriver à Fouzouli, dans le Haut-Karabakh. On est accompagné d'un chauffeur, d'une traductrice et d'un représentant de l'État. C'est obligatoire. Les autorités azerbaïdjanaises nous ont expliqué que c'était pour des raisons de sécurité, car la région est encore jonchée de mines antipersonnelles. On sait que c'est aussi une manière de nous encadrer, de surveiller où l'on va et à qui l'on parle. Fouzouli, donc, c'est une ville qui a été récupérée par l'Azerbaïdjan au terme de la Seconde Guerre du Karabakh en novembre 2020. Elle est encore très marquée par la guerre. Il y a partout des maisons en ruine, des mausolées. Et au milieu de tout ça, la nouvelle ville de Fouzouli, avec des dizaines d'immeubles flambant neufs. Près de 3100 personnes originaires de la région ont déjà été réinstallées. On commence notre visite par une école. Elle a ouvert ici en septembre dernier. C'est gigantesque.
Il y a 40 classes pour des élèves de 6 à 16 ans. Ici, vous pouvez voir les laboratoires de physique, de chimie. Il n'y a personne en ce moment.
Les élèves sont donc en vacances, mais c'est assez étonnant parce que tout a été disposé sur les tables comme s'ils étaient là, comme s'ils étaient présents. Des cahiers, des pipettes, des microscopes. On dirait presque une école témoin. Dans chaque classe, il y a une professeure qui nous attend avec un grand sourire.
Ma motivation ici est totalement différente. Vous ne vous rendez pas compte à quel point je suis heureuse. Être professeure ici, ce n'est pas seulement enseigner, c'est avoir le privilège de reconstruire le futur de notre région.
Regardez, ici nous avons également une deuxième école pour les enfants, une école d'art et de dessin. Ce dessin, c'est un général qui a eu un immense rôle pour libérer nos territoires.
Toutes les œuvres d'art qui sont exposées ici ont plus ou moins un rapport avec la guerre ou la patrie. On se balade à présent dans le centre-ville, il y a plein de petits commerces, ils viennent à peine d'ouvrir. Ça sent encore la peinture, un coiffeur, une esthéticienne, un dentiste, une salle de sport. Les rues sont très calmes, on ne croise pas beaucoup d'habitants.
Ça a été compliqué d'attirer les investissements ici, car les investisseurs se disent qu'ils ne vont pas pouvoir faire beaucoup de profit. Ils ont tout de même fini par venir parce qu'ils comprennent l'opportunité que cela représente de construire une vie nouvelle, ici, avec les habitants. C'est aussi grâce aux incitations de l'État, les avantages fiscaux notamment.
Il y a deux femmes qui nous attendaient en bas d'un immeuble. Elles se dirigent vers nous. Tout est vraiment très millimétré.
Je m'appelle Essan Alieva, j'ai été arrachée à la ville de Fuzuli par la guerre en 1993, j'avais 8 ans. Je suis ce qu'on appelle une déplacée interne, j'ai dû aller vivre dans une autre ville d'Azerbaïdjan. 30 ans plus tard, je suis enfin de retour, la maison de mon père était près d'ici. Je suis si triste qu'il ne soit plus de ce monde pour pouvoir voir cela. Que Dieu bénisse le président, qu'il lui accorde à jamais une bonne santé. Que Dieu bénisse tous nos dirigeants, nos martyrs, nos vétérans. C'est grâce à eux que nous sommes de retour ici aujourd'hui.
Aujourd'hui, il n'y a plus d'Arméniens dans le Karabakh. Les derniers sont partis suite au dernier assaut militaire en septembre 2023. Est-ce que vous pensez qu'un jour, il sera possible à nouveau de vivre ensemble ici?
Je ne suis pas sûre. Ce serait trop difficile après tout ce que nous avons traversé. Nous avons vécu l'enfer. Nous avons toujours cherché à faire la paix par le passé. Mais ça n'a pas été le cas des Arméniens. Combien de guerres avons-nous dû vivre à cause d'eux? Combien des nôtres sont morts? Combien ont été tués?
Laissez-moi vous dire quelque chose. Il y a bien des Arméniens ici. Ils vivent aujourd'hui à Khanekandi. Ils vivent entre eux, ils sont en sécurité. Personne ne les touche.
Nobody touches them.
S'il y a encore des Arméniens à Khanekandi, est-ce que c'est possible d'aller les rencontrer?
Je ne sais pas. Elle peut aller là-bas?
Je ne sais pas, ça ne fait pas partie du programme. Mais si vous voulez, je peux demander si c'est possible.
Khanekandi, c'est le nom azerbaïdjanais de Stepanakert, l'ancienne capitale de l'enclave séparatiste arménienne du Karabakh. La ville se trouve seulement à 1h15 de voiture de Fouzouli et malgré nos multiples demandes, l'accès nous y a été refusé. Des experts américains affirment d'après des images satellites que les traces arméniennes sont dans la zone, peu à peu effacées.
Reportage dans le Haut-Karabakh signé Manon Chaplin pour refermer tout un monde que vous pouvez podcaster sur Play RTS ou autre grande plateforme et pour nous écrire. C'est toujours la même adresse, tout un monde en un seul mot, @rts.ch. Nous vivons une journée spéciale ensemble contre la maltraitance des enfants. Vous le savez, dans le cadre de cette semaine cœur à cœur, aujourd'hui les quatre régions linguistiques de Suisse sont unies pour cette cause. Les standards sont prêts à recevoir vos dons. Jean-Marc Richard, puisqu'on est à la fin de tout un monde, on peut le dire, l'opération elle touche aussi l'international.
Absolument, avec des pays dans lesquels interviennent des ONG partenaires de la chaîne du bonheur, le Bangladesh, mais aussi l'Afghanistan, Myanmar, le Pakistan, et puis du côté du Sahel, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, où des programmes sont mis en place pour venir en aide aux enfants victimes de maltraitance, d'abus, mais aussi des programmes de prévention. C'est très important parce qu'on fait de la prévention chez nous, mais il faut aussi en faire dans le monde. Et ce sont des programmes extrêmement intéressants. On aura l'occasion de les détailler un petit peu tout au long de cette journée. Merci de votre accueil. Le standard national est ouvert, 0800 87 07 07. Et puis si on n'y arrive pas, parce que des fois il y a un peu saturation, il y a cœur-rts.ch ou, si vous préférez le mot bonheur, bonheur.ch.
Oui, donc il y a vraiment tous les moyens, ah là, en tout cas, sans
aucune permis. Excuse aujourd'hui.
Aucune excuse. Merci beaucoup Jean-Marc. On vous retrouve tout au long de cette journée sur RTS Première, notamment. Merci beaucoup. Voilà, c'est l'heure, il est grand temps de passer aux infos de Frédéric Mamaïs puisqu'il est 8h32.
Le verdict est très attendu ce matin à Avignon, celui du procès des viols de Mazan. 51 hommes sont accusés de viols en série à l'encontre de Gisèle Pellicot. Ils ont entre 27 et 74 ans, de tous milieux sociaux, venus agresser leur victime préalablement sédatée par son ex-époux. Le parquet a requis 20 ans contre Dominique Pellicot, la réclusion criminelle maximale, des peines de 4 à 18 ans de prison requises contre les autres accusés. Emmanuel Macron vient d'atterrir à Mayotte, visite attendue du président français sur l'île de l'océan Pacifique, dévasté samedi par le cyclone Chido. Face à la situation catastrophique, le gouvernement décrète le blocage des prix des produits de grande consommation. Nous vous l'apprenons ce matin, Unia attaque l'entreprise horlogère Singer devant le tribunal des prud'hommes. Pour le syndicat, la manufacture discrimine les femmes en obligeant tous ses employés à timbrer quand elles se rendent aux toilettes. La chute des exportations suisses en novembre, la chimie et la pharma ont pesé de tout leur poids. Ces secteurs ont vécu leur plus gros recul mensuel. La balance commerciale présente un excédent de près de 4 milliards de francs contre près de 6 milliards en octobre. Et dans la pharma, échec du groupe Roche dans sa lutte contre Parkinson. Le géant balois déplore ce matin l'échec d'un programme clinique intermédiaire, celui d'un anticorps monoclonal expérimental. L'étude en phase 2 n'a pas atteint son critère primaire de ralentissement de la dégradation des fonctions moteurs. Enfin, en hockey sur glace, le Lausanne HC a renoué avec la victoire hier soir 5-0 contre Ambri Piotta. Dans les autres rencontres, le leader de National League Davos a été battu à domicile par Langnau 3-0. Rapperswil s'est défait de Berne 4-2. Enfin, Kloten s'est imposé 6-3 face à Lugano.
Cœur à cœur avec Raiffeisen et la Fondation Groupe Mutuel.
aujourd'hui, c'est à Monté que nous sommes toute la journée pour ce sixième jour de Cœur à Cœur. Monté, c'est le Valais et c'est l'endroit où ta maman est née, Philippe Martin.
Oui, à 100 mètres d'ici, en plus, dans la rue.
Donc on est un peu chez toi.
Je suis tout ému.
Oui,
ouais, je suis originaire de Monté.
Voilà, et ben, on était dans le Jura il y a quelques jours. On sera tout près de chez toi demain, Jonas, dans le canton de Vaud.
À Yverdon-les-Bains, exactement.
Exactement.
Pour ce dernier jour de Cœur à Cœur.
Bon, vous n'avez plus que deux jours. Deux jours seulement pour faire vos dons à cœur, parce que vous le savez, cette opération dure depuis samedi, on s'est tous mobilisés, on se mobilise encore aujourd'hui plus que jamais, ben, on se mobilise pour lutter contre la maltraitance des enfants. Et pour ça, on a besoin de vous, que ce soit en Suisse ou dans le monde, on a besoin de vos dons, parce que chaque don que vous faites, eh bien, c'est une institution qui peut être aidée, donc des enfants qui peuvent être aidés parce qu'ils ont vraiment besoin de nous. Toute la journée, vous allez entendre des témoignages d'enfants, d'adultes qui ont été maltraités et qui vous racontent leur quotidien. Alors, avant de continuer cette petite émission, hein, on fait...
Cette petite émission de 70 heures.
Exactement. Oui. Mais on a plus que, si on vient de commencer, on n'a plus que 10 heures de direct. Donc, avant de continuer, on file du côté de la route.
Infotrafic RTS.
Prudence sur la bretelle autoroutière de Lausanne Sud. Quelle que soit votre direction, la police signale la présence de piétons sur la chaussée entre Malais et l'échangeur des Cubes Blancs. Je répète, prudence sur la bretelle autoroutière de Lausanne Sud. Quelle que soit votre direction, la police signale la présence de piétons sur la chaussée entre Malais et l'échangeur des Cubes Blancs.
Et si on rentrait dans le cube ?
Mais c'est pas qu'il pleut.
Pas tout de suite.
C'est pas qu'il pleut.
Oh ben oui,
ah si. Oui, si, hein, il pleut aujourd'hui à Monté, effectivement. Alors, une manière de se mobiliser, Philippe, oui, c'est de passer par...
Par le site, oui, coeurrts.ch, voilà. Et puis moi, j'avais envie de vous donner un chiffre qu'on m'a donné ce matin. Est-ce que vous vous rappelez du chiffre qu'on a donné hier soir, du nombre de dons qui sont arrivés? Alors, ce sont pas les promesses de dons, ce sont pas les dons qui sont arrivés également dans le cube, dans chaque ville où nous sommes passés, mais les dons validés et comptabilisés à ce jour. Hier, le chiffre, hier soir...
C'était un peu moins de 3000.
C'était 2967 dons. On a reçu un chiffre ce matin.
Alors, c'est...
À votre avis, Jonas, pronostic.
2967 ce matin, 8h30. Dons, on dirait qu'il est fribourgeois. 2967
dons. On n'est pas à Fribourg.
Alors,
donc, combien?
5578 dons.
Donc c'était hier en fin d'après-midi.
Exactement,
2009.
Ce matin, on a comptabilisé 5578 dons.
Mais qu'est-ce qui s'est passé?
Je ne sais pas. C'est peut-être notre appel d'hier
dans
soir.
Dans la nuit Vienne. Hier soir.
Alors, il y a peut-être des dons qui ont été, il y a peut-être des promesses de dons qui ont été comptabilisées comme dons finalisés. Mais on est à ce chiffre. Alors,
je
c'est
crois
bien.
Que c'est le statisticien qui s'occupait de l'AVS. En
exactement.
Fait,
c'est moi-même. C'est moi-même. Si vous avez exactement. Des questions, envoyez-moi Pierre Nebel.
C'est comme ça que ça alors, passe de 2009 à 5000 voilà. En une nuit pour un peu standard référence.
Je ne veux pas vous dire, mais Pierre Nebel n'est pas statisticien. Il a beaucoup, beaucoup de qualités.
Je ne suis pas statisticien non plus.
C'est une super nouvelle. Ça veut dire que plus de 5000 personnes se sont déjà mobilisées de cœur à cœur et qu'on peut atteindre les 10 000. Pourquoi je dis ça? C'est qu'on sait qu'en général, le dernier jour, on double la somme de cœur à cœur.
Tout le monde se réveille.
Exactement. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Oui, je vais participer à cœur, mais je le ferai demain, demain, demain. » Et puis, le vendredi matin, donc demain matin, quand on vous dit « Il reste quelques heures », là, tout le monde appelle en même temps, tout le monde va sur coeur.ch en même temps, etc.
Pardon, je n'ai pas compris.
Donc, si on est à 5000 aujourd'hui, on a deux jours, les deux derniers jours de l'opération, on peut probablement doubler le nombre de dons et puis atteindre une somme qui sera, je l'espère, au-dessus de la somme de l'année passée, c'est-à-dire 4,7 millions environ qu'on a annoncé le dernier jour. Et ensuite, les gens ont fait davantage de dons, on arrivait à 5,3 millions. Donc, il faudrait qu'on annonce vendredi une somme plus élevée que 4,7 millions et si possible, plus de 10 000 personnes qui ont fait des dons et qui sont entrées dans la famille de Cœur à Cœur qui nous ont dit « Moi aussi, j'ai à cœur le destin de l'enfance dans mon pays ». Donc, pour le faire, coeurrts.ch, allez-y.
On compte sur vous. Alors, on va passer une chanson pour commencer. On écoute une chanson, c'est vous qui choisissez le programme musical. Aujourd'hui, vous le savez, coeurrts.ch et puis on se retrouve tout de suite après.
Cherche
cherche-la dans les voix, cherche-la dans les jeux, cherche-la dans les choix, cherche-la dans le peu, autour de ceux qui savent, des sourires et du temps, tout autour de l'instant, pas toujours quand c'est grave, cherche-la dans l'estime, dans les moments intimes, elle se cache un peu là, un peu autour de toi, elle est pas permanente, c'est une fuite en avant, c'est un soleil, le vent vit en haut de la pente, cherche-la chez les autres, ou plutôt avec eux, dans les jeux amoureux, les amitiés qui tiennent, dans les secrets sucrés qui n'appartiennent qu'à toi, à une bouche, à une main, elle est toujours par là, elle est pas installée, elle est pas résistante, elle s'enfuit, elle retente, elle s'éclipse, elle renaît, elle est là quelque part, souvent juste elle attend que t'arrêtes de l'attendre et que tu puisses la voir. Évidemment, elle est pas là tout le temps, elle débarque, elle repart à n'importe quel moment. Évidemment, elle est pas là tout le temps, tout le temps. Évidemment, elle est pas là tout le temps, elle débarque, elle repart à n'importe quel moment. Évidemment, elle est pas là tout le temps. Là, un jour tu la regrettes, tu sais même pas pourquoi. Toi t'étais sur la brèche, à chercher l'impossible. T'as cru que t'étais la cible, mais t'étais juste la flèche. Je sais pas qui fait croire encore que c'est une case, un trophée, un état, un trésor, une extase. En fait c'était juste là, sous tes yeux, sous ta peau. En fait c'était juste beau, mais tu le savais même pas. Passer sa vie à chercher ce qu'on avait déjà, c'est l'apanage des riches, des connards, des bourgeois. Parce qu'à force d'attendre que ça nous soit livré, on passe par-dessus bord, ou on passe à côté. Et on passe à côté bien la moitié de sa vie, à chercher les instants, à regretter bêtement, sans voir que c'était là, fondu dans le quotidien, que peut-être ça revient, mais que peut-être pas. Évidemment, elle est pas là tout le temps, elle débarque, elle repart à n'importe quel moment. Évidemment, elle est pas là tout le temps, tout le temps. Évidemment, elle est pas là tout le temps, elle débarque, elle repart à n'importe quel moment. Évidemment, elle est pas là tout le temps. Elle est pas là tout le temps, elle débarque, elle repart à n'importe quel moment. Évidemment, elle est pas là tout le temps. Évidemment, elle est pas là tout le temps, elle débarque, elle repart à n'importe quel moment. Évidemment, elle est pas là tout le temps.
Sur RTS.
Ah, la peine avec son
première.
Petit capuchon.
Oui, c'est mon capuchon qui restait coincé dans mon casque.
Alors,
ça arrive.
C'est pas mon convoi permanente, ça. Très cher.
On est ici toujours à Monterrey. On le sera toute la journée. Vous pouvez venir nous retrouver, même s'il pleut. Mais la pluie n'est pas très forte. Profitez-en parce qu'on nous annonce le déluge pour aujourd'hui. Je pense que c'est le
une bonne
bon
manière
moment.
De vendre la chose.
C'est pas mal, non?
Ça va sentir le chien mouillé dans le cube.
Exactement. Et puis avec nous, on a deux personnes. Eh bien, on a Déborah Panzica et Roxane Bellon. C'est vous qui organisez le marché de Noël où on est aujourd'hui. Alors, quand est-ce qu'il va ouvrir et qu'est-ce qu'on peut y trouver dans ce marché de Noël?
Alors, le marché, il ouvre à 16h jusqu'à 22h aujourd'hui. On a 46 chalets, dont deux tiers d'artisans et un tiers de restaurateurs. On a aussi un chalet des associations. Donc, il y a une association par jour. Et comme notre marché de Noël dure 10 jours, il y a 10 associations qui passent, qui sont des associations montésanes.
Et c'est quoi aujourd'hui? Quelle association?
Alors, c'est une bonne question.
Et je vous remercie de me l'avoir posée. Alors, on doit passer à la suivante, c'est ça?
C'est moi.
Oui.
Hier, on avait Terre des Hommes et aujourd'hui, nous avons, sauf erreur, le club de sport de la ville de Monterrey.
Ah, mais Philippe pourra faire du sport aujourd'hui.
Ça suffit lâchez-moi avec vos régimes, vos soupes et vos sports. Là. C'est pas possible. J'ai vu qu'il y a un truc qui se préparait en plus derrière.
Ça fait à peu près 15 ans hein, que le marché de Noël existe ici à Monterrey, mais vous êtes, on va dire, toute nouvelle. Hein. Vous organisez le marché depuis une année pour l'une et deux ans pour l'autre. Qu'est-ce que vous avez voulu changer? Comment est-ce que vous avez voulu prendre les choses?
Alors, on a essayé de garder un marché à taille humaine. Et puis, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il fallait que les animations viennent aux gens pour que les gens puissent profiter des stands tout en bénéficiant d'un spectacle qui vient à eux. Donc, on a misé plutôt sur des déambulations et des animations de rue pour que, voilà, que tout le monde se retrouve à un endroit et qu'il n'y ait pas des mouvements de foule d'un côté à de l'autre et que ça reste vivant toute la journée.
Alors, Monterrey est plus connu pour son carnaval que pour son marché de Noël. Comment est-ce qu'on peut dire aux Roms mamans qui nous écoutent et qu'est-ce qu'on peut leur dire pour les faire venir ici à Monthey?
Bah, pour le marché Noël, il n'y a pas besoin de se déguiser. Donc voilà, peut-être que ça enlève une contrainte. Non, je ne sais pas. Ce qui est chouette, c'est que c'est une ambiance conviviale, qu'on a de nombreux stands de restauration, qu'on est ouvert pendant 10 jours et puis que l'accessibilité est facile. On arrive à se parquer facilement, à arriver en transport en commun et que l'accueil est chaleureux.
Voilà, surtout. L'ambiance est sympa. Oui. C'est ça, surtout. Alors, on va vous laisser parce que on va bientôt rentrer dans le cube, mais j'aimerais aller.
Vous restez dehors, vous, hein?
Bah, oui, vous restez dehors au froid.
Jusqu'à 16h.
Mais on vous accueille, on se réjouit.
En tout cas, merci beaucoup de l'accueil. Moi, je vais me déplacer un tout petit peu parce qu'il y a Philippe qui est là et qui nous attend depuis
c'est
ce matin.
C'est pas moi. C'est
non,
un autre
c'est
Philippe.
Un autre Philippe.
Le vrai Philippe.
Le vrai, parce que c'est voilà, lui. Un vrai. Tu vois comment tu dois être, Philippe? Tu dois être comme ça. Bonjour, Philippe.
Mais bonjour, Tania.
Quand on est arrivé ce matin, vous étiez déjà là. Vous nous attendiez. Pourquoi vous nous attendiez?
Pour deux raisons. La première, c'est que je me déplace en transport public. Donc, pour être assez tôt, il fallait que je prenne le train depuis Hollande. Et puis, Marilyn avait préparé un petit cadeau pour Tania.
Oui, alors ça, c'est votre épouse. Elle m'a tricoté ses gants. Je crois qu'elle a bien vu que j'avais froid aux mains, les autres. D'ailleurs, vous la remerciez beaucoup. Hein. Oui. Et puis, vous aviez envie de faire des dons.
Oui, alors je dois faire trois dons. Le premier don, ben, c'est celui de la paroisse d'Olonvillard, la paroisse protestante, qui verse 500 francs.
Et puis,
on va le faire après par Internet. Et puis, deux dons, ben, un pour Marilyn de 50 francs, puis un pour moi de 50 francs.
Ben
puis,
voilà.
Puis là, j'ai besoin de vous aider, parce que vu ma situation visuelle, je ne peux pas faire tout seul.
Voilà, vous avez des difficultés visuelles. On dit que vous êtes malvoyant, c'est ça. Vous êtes arrivé ici avec votre canne. On va vous aider. On va faire ça ensemble. Et puis, vous verrez, vous montrer à toute la Suisse romande que ce n'est pas si compliqué de faire un don. Alors, comment est-ce qu'on fait, vous savez?
Alors oui, je sais comment on fait un don. Ben, il y a déjà le téléphone, le 0800 87 07 07 ou 87 pour les Jurassiens. Je dis pour les Jurassiens parce que je chante avec Blaise Ritchie.
Ah ben voilà. Mais non, mais il y a aussi les jeunes voix qui disent 87. En fait, il y a beaucoup de personnes en Suisse romande qui disent 87 quand même. Et puis, on peut aussi aller sur le site internet. Vous nous rappelez le...
Alors, ça c'est plus compliqué, moi. C'est cœur RTS.
.ch. Mais c'est juste. C'est parfait.
Et puis, il y a Twint.
Exactement, on peut aussi passer par là. Je reste avec vous, on le fera ensemble.
Oui,
et puis mes collègues, est-ce qu'ils se sont mis?
Petite chose à dire, Marilyn aurait bien aimé qu'on puisse passer trois petits points de Rinaldi.
Eh bien, on va essayer de faire en sorte de passer trois petits coins de Pascal Rinaldi. Et on va l'écouter sur cœur, rts.ch. Je ne sais pas où sont Jonas.
On est là.
On est là.
On est allé se réchauffer. On a profité du fait que tu sois avec Philippe sous la pluie pour aller un peu faire de la place et ranger notre chambre.
Alors, pendant que
ici,
vous rangez vos chambres...
On écoute un titre.
Exactement.
Jacques Higelin, par exemple, qui a été demandé par ses garances de La Chaux-de-Fonds qui nous a donné et offert 30 francs pour la cause de Cœur à Cœur cette année avec ce message pour mon petit-neveu et tous les enfants du monde. Bravo à toute l'équipe de Cœur à Cœur et belle journée à vous toutes et à vous tous. Jacques Higelin, voici aujourd'hui la crise.
C'est dur aujourd'hui peut-être, demain ça sera vachement mieux. On en rend comme une bête, tu tires la vache. C'est dur aujourd'hui, la crise te retourne le steak sur la paille. Tu lèches le noyau de la cerise avant que la machine déraille. Da 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 ce sera vachement mieux. Tu tournes en rond comme une bête, tu tires la vache par la queue. Chez Louise, quelqu'un rond comme une bonbonne. Quel feu de l'enfer sous sa chemise, le ciel dans son stock d'alcool.
Jacques Higelin demandé sur cœur RTS.ch, un nouveau titre, un nouveau don. C'était aujourd'hui la crise.
Alors, et cœur à cœur ne connaît pas la crise.
Non,
engagez-vous vous aussi pour soutenir les enfants qui sont dans des situations de maltraitance et aider celles et ceux qui sont à leur côté sur cœur RTS.ch. Vous êtes déjà un peu plus de 5000 dans la famille de cœur à cœur. Nous aimerions atteindre au moins 10 000 personnes et vous annoncer le plus gros montant possible vendredi soir, c'est-à-dire demain à Yverdon. On ouvre le défi du jour qui permettrait de rapporter 3 000 francs de plus dans la cagnotte de cœur à cœur. Tania Chitil.
On n'a pas échoué jusqu'à maintenant. Hein.
Non, et puis on a même réussi haut la main. Hein. Alors, aujourd'hui, le défi du jour, chère Tania, cher Philippe, cher Jonas, sixième jour de cette neuvième édition de Cœur à Cœur, nous attendons ce soir 80 personnes, donc c'est plus 70, c'est 80, à 18h30 au marché de Noël de Montet, sur la place de l'Hôtel de Ville, 80 personnes avec une guirlande autour du cou. C'est pas compliqué.
Pour électrique, j'espère,
guirlande.
Il pleut.
Hein? T'es bête.
C'est facile.
C'est facile. Une guirlande, c'est facile. On a tout ça chez soi. On en trouve partout. Alors, si on a le bon nombre de personnes, évidemment, la Fondation Groupe Mutuel versera 3000 francs à la chaîne du bonheur et à cœur à cœur. Alors, on vous attend vraiment nombreux et nombreuses.
Place avec... de l'Hôtel de Ville à Montet, devant le cube de cœur à cœur, à
avec
18h30,
une
avec une guirlande autour de cou. Dans toutes les autres villes, nous avons non seulement réussi le défi, mais en général doublé le nombre de personnes que nous attendions. Idéalement, il faudrait que vous soyez 80, 80 ou 160 personnes ce soir, place de l'Hôtel de Ville, 18h30 à Montet.
Le record, c'était hier, hein, bien, hein?
Oui.
Pour l'instant. Et ouais. L'autre corps, ce sera ce soir. Parce que les Valaisans se déchirent pour cœur à cœur.
Meilleur, les Valaisans.
On se souvient de l'édition de Sion de cœur à cœur qui a, en tout cas, qui nous a marqué et qui a sûrement marqué quelques Valaisannes et Valaisans qui voudront venir faire la fête avec nous à 18h30.
Et si on montait, c'est pas si loin.
Absolument. Benjamin Descoster, l'humoriste, suit cœur à cœur toute la journée et nous propose des débriefs le soir que nous réécoutons aujourd'hui, le débrief de la journée d'hier.
Cinquième jour de cœur à cœur et même pour moi ça devient compliqué. Bah ouais, parce que aujourd'hui on a eu des vrais moments émouvants. Hein, au menu des femmes battues, de l'inceste, des enfants qui meurent toutes les 4 minutes dans le monde. Et allez maintenant des blagues de Benjamin Descoster. Et au fond c'est vous Tania Chitil qui résumez le mieux mon état d'esprit.
J'aimerais partir tout de suite.
Non.
Pourquoi j'ai accepté?
Parce que ça paraît facile mon job, mais j'écoute vraiment tout. Hein, et comme si ça suffisait pas tous ces drames, faut en plus se taper du Grand Corps Malade ou du Soprano toute la journée. Et c'est pas parce qu'il y a des enfants maltraités que tout le monde doit souffrir. Bref, heureusement qu'il y a Philippe Martin pour me remonter le moral.
Eh ben merci Marie. Voilà, je vous salue Marie. Reste avec nous un instant.
Oh, mais j'adore cet extrait, parce que ces 6 secondes contiennent tellement de choses. Alors, je vous propose qu'on découpe la séquence pour l'analyser ensemble. D'abord, il y a la phase d'inspiration, le moment où on sent l'idée du gag naître dans les yeux de Philippe.
Eh ben merci Marie, voilà.
Et on voit ce début de sourire malicieux sur la bouche de Philippe. Hein. Ensuite, il y a la phase du gag, plutôt efficace et assez bien exécutée.
Je vous salue, Marie.
À part que Philippe rit à sa propre blague hein, et qu'il est le seul à le faire, preuve que le meilleur public de Philippe Martin, ça reste Philippe Martin. Et puis, il y a ce moment post-bide avec la petite inspiration et le changement de sujet rapide. Je vous le mets avec le gag avant pour qu'on voit bien la rupture.
Je vous salue, Marie. Reste avec nous un instant.
Voilà, là Philippe s'est rappelé qu'il y aurait un débriefing sur RTS1 à 18h25 et que ce serait dommage d'être encore la star de la séquence, comme quoi la mémoire de Philippe Martin est meilleure que son humour. De son côté, Jonas Schneider a eu de la peine au démarrage ce matin.
Donc, à 18h30, vous êtes un maximum devant le cube de cœur à cœur, ici à Bienne, sous le sapin géant du sapin du villa, du marché de Noël.
Alors, si jamais la cause de cœur à cœur, c'est toujours les enfants, pas les AVC. Mais heureusement, il s'est bien repris, Jonas. Il a su rebondir quand Tania lui a dit qu'il faudrait mieux articuler quand il irait interviewer Guy Parmelin.
De si c'est comme ça, avec Guy Parmelin, ça va pas aller.
Tout va bien.
Au niveau.
Et moi, j'attendais Jonas le vanneur à l'interview de Parmelin, mais apparemment, il a été remplacé par quelqu'un d'autre, le petit Jojo, un enfant tout intimidé. La séquence suivante a été réalisée sans montage, promis.
Vous nous accueillez dans votre bureau, merci beaucoup de nous recevoir. Ce jeune Guy, absolument incroyable dans son bureau, qui va devoir aller au Parlement tout à l'heure, qui avait sûrement des séances importantes. Merci beaucoup, monsieur le conseiller fédéral, absolument incroyable de nous avoir reçus dans votre journée pour cœur à cœur. Merci beaucoup.
Merci.
Donc, vous rappellerez à Jonas de bien se rincer la bouche, pas qu'il lui reste des poils de cul de Guy Parmelin sur la langue. Et évidemment, on n'oublie pas qu'on peut en rigoler, mais que le plus important, c'est de se mobiliser.
Merci beaucoup, Benjamin Descoster, que vous retrouvez ce soir pour le débrief de la journée Montézanne de cœur à cœur. Dans un instant, Philippe Martin fait du sport avec une coach sportive ici sur la place. Et puis nous
non, à l'abri, t'en fais pas.
Et nous accueillerons le président de la ville de Monté qui est venu vous offrir café, croissant ici, place de l'hôtel. Ça vous dérange que je parle?
Un petit peu, si tu veux, parce que je voulais lui dire ce qu'il faisait tout à l'heure.
Et donc, toi, tu... Les deux du fond, là. On se calme.
Oui, monsieur.
Oui, monsieur,
c'est
je vous promets,
c'est bientôt Noël que c'est plus cool, l'école, d'accord?
Non, il est sévère, voilà. Schneider.
Exact.
Je l'avais eu en sixième, il était plus sympa. Oui.
Pariez mieux de bosser votre poésie, Philippe
d'accord,
Martin.
D'accord, très
bien. Et vous, votre anglais et votre allemand.
Et ça répond au professeur, en plus.
Allez, hop.
Ça va pas dire, c'est le doyen.
Non, tu dis remarque dans le carnet.
C'est remarque dans le carnet.
Amenez-moi votre carnet, chutil.
Philippe nous a demandé une chanson tout à l'heure.
Oui.
Impertinente.
Également.
Et mal coiffé, en plus.
Trois petits points de Pascal Rinaldi, c'est ce qu'on écoute maintenant sur RTS Première.
Trois petits points qui se posent pour te dire ce que je n'ose, sans risquer le quiproquo, il faut se méfier des mots. Trois petits points, un mystère, c'est beaucoup moins terre à terre qu'un mot taillé dans le marbre, qu'une phrase regrettable. Trois petits points qui voudraient dire ce que l'on ne peut écrire au risque de se méprendre. Trois petits points de suspension en guise d'invitation. Trois petits points qui font mouche, te mettent l'eau à la bouche. Trois petits points, c'est déjà beaucoup. Posé au bout d'une ligne, c'est un appel ou un signe. Pour le reste, on verra bien. Trois petits points, une fenêtre, comme une porte entrouverte, sur le jardin des possibles, et qui disent l'indicible. Trois petits points, rien de plus, à décoder un rébus. Trois petits points qui s'alignent, c'est le début d'une énigme. Ça peut paraître un peu gauche, c'est un brouillon, une ébauche, ça ressemble à presque rien. Trois petits points qui font mouche, te mettent l'eau à la bouche. Trois petits points, c'est déjà beaucoup. Posé au bout d'une ligne, c'est un appel ou un signe. Pour le reste, on verra bien. Trois petits points, c'est suffisant. Pour te dire que je t'attends, maintenant ici ou ailleurs, depuis je compte les heures. Trois petits points comme un espoir, une envie de se revoir, mais sans forcer le destin, pour le reste on verra bien. Une idée derrière la tête, que tu comprendras peut-être, et qui fera son chemin. Trois petits points qui font mouche, te mettent l'eau à la bouche. trois petits points, c'est déjà beaucoup. Posé au bout d'une ligne, c'est un appel ou un signe. Trois petits points qui font mouche, te mettent l'eau à la bouche. Trois petits points, c'est déjà beaucoup. Posé au bout d'une ligne, c'est un appel ou un signe. C'est une histoire sans fin.
Le Suisse, Pascal Rinaldi, qui est d'ailleurs venu soutenir Cœur à Cœur avec son titre « Trois petits points » que vous avez choisi sur cœur-rts.ch.
C'est Philippe qui a choisi.
Entrez dans la famille de Cœur à Cœur. Il est 9h.